Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui nous accompagne dans les différentes étapes de notre vie. Nous sommes tous quelque part sur le fil du temps. Plusieurs d'entre nous sommes des parents, certains des grands-parents, peut-être même des arrière-grands-parents. Mais tous, nous sommes des enfants. Des enfants d'âge différent, nés de deux personnes qui se sont un jour rapprochées et qui se sont peut-être éloignées. Plusieurs ont choisi de remettre leur brosse à dents dans le même verre, bref, d'y croire à nouveau. Parce qu'une vie sans espoir, on va se le dire, c'est comme porter des vêtements délavés. Certains ont donc ouvert les bras et un bout de cœur à nouveau à des enfants qui ne sont pas les leurs. Et parfois, malgré tous les efforts, la greffe ne prend pas. Et l'échec de ces familles recomposées affecte non seulement les enfants, mais aussi les beaux-parents et les grands-parents. Et Dieu sait que des grands-parents, il y en a beaucoup plus qu'avant. Parce que ça fait bien du monde autour de la table de nos relations, nous en discutons avec Marie Monpetit, intervenante psychosociale et autrice de « Réussir sa famille monoparentale et recomposée » aux éditions La Semaine. Personnellement, mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans, à une époque où c'était loin d'être monnaie courante. En fait, j'étais une des rares dans ma classe dont les parents étaient séparés, alors qu'aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. Une fois adulte, j'ai reproduit moi-même ce scénario dans mes relations, deux fois plutôt qu'une. Mais ces amours m'ont donné deux magnifiques garçons de 18 et 28 ans avec qui j'apprends à cultiver une relation d'adulte à adulte. Comment rester proche de ces enfants sans être envahissant? Le magazine Le Bel Âge d'octobre y consacre un article vraiment intéressant et nous aurons le plaisir d'en discuter avec sa rédactrice en chef, Aline Pinksteren. Son éditorial sur la transition de son fils d'une vie d'enfant à une vie de cégepien m'est allé droit au cœur tellement ça faisait écho à ma propre situation. Je me rappelle entre autres une précédente transition de mon fils Vincent entre l'enfance et l'adolescence qui s'est exprimée par des shampoings. Se côtoyait ainsi dans la douche un viril shampoing Axe et une bouteille de shampoing Bob l'éponge. Des shampoings que Vincent a eu en double pendant des années chez maman et chez papa. Aujourd'hui, il passe la semaine en résidence au cégep et trimballe son Axe dans son sac à dos. J'y vois une volonté de se créer un lieu fixe, un espace bien à lui. Donc, les relations familiales évolutives seront au cœur de cette 60e émission d'Au fil du temps. Et comme vivre dans deux maisons est le cas de bien des enfants aujourd'hui, lançons cette émission avec « Double enfance » de Julien Clerc.
Elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance, pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage, chaque semaine et chaque été, des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d'anniversaire, multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Dis-moi 10 secondes, le temps n'est plus un souci. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie.
Double enfance de Julien Clerc. Quelle chanson forte à propos pour notre entrevue avec Marie Monpetit, qui est intervenante psychosociale depuis près de 20 ans et autrice de Réussir sa famille monoparentale et recomposée aux éditions La Semaine. Bonjour Marie.
Bonjour Chantal, comment allez-vous?
Ça va très bien et j'avoue que vous m'avez bien fait rire. Je lisais un article paru dans la presse où vous compariez recomposer sa famille avec un nouveau conjoint. C'est comme fusionner une entreprise de fromage bio à un garage de mécanique générale.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est parce qu'on vient de deux cultures complètement différentes. Donc, d'amalgamer ces deux cultures-là ensemble, des fois, ça fait de drôles de repousses, je vous dirais.
Est-ce qu'on minimise justement cet aspect-là de la culture et des traditions quand on décide de mettre sa brosse à dents dans le même verre à nouveau?
Oui, sincèrement, oui, on minimise beaucoup. On prend pas conscience. Vous savez, le parent, parent 1, parent 2, par exemple, le parent 1 qui décide de rencontrer un parent 2, lui a sa propre culture, a ses propres traditions, et le parent 2 a aussi sa propre culture et sa propre tradition. La différence, c'est que habituellement, les deux parents ont déjà des enfants et ont déjà inculqué leurs traditions et leurs valeurs. Donc, pour les enfants, c'est difficile par la suite de retomber dans une famille recomposée où les valeurs de l'un ou les traditions de l'un peuvent être complètement différentes des traditions de l'autre. Mais c'est ça, des fois, qui fait des gros clashs,
oui.
L'anglicisme, mais ça fait des confrontations parfois extrêmement difficiles, pas tant pour le parent, mais pour les enfants.
C'est qu'encore faut-il être conscient de notre culture, de nos valeurs et de nos traditions. Et c'est parfois dans le choc où on réalise que, ah oui, tiens, c'est vrai ça. Pour moi, c'est vraiment important. Et vous suggérez justement de s'accorder un temps de pause après une rupture pour prendre conscience de ces valeurs.
Vous avez tout à fait raison. Vous savez, les gens, les gens, c'est pas vrai, je veux pas généraliser, mais je dirais que une grande majorité de personnes, quand ils deviennent en famille monoparentale ou séparée, pas tant la personne comme les gens aussi autour, hein, vous mettent de la pression. Bon, ben, OK, je vais, il faut que tu rencontres, faut faire ça vite. On est dans une société où tout va vite. Mais il faut prendre le temps de se déposer. Surtout si c'est pas un choix, c'est un non-choix, la séparation du départ. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est à réfléchir et à faire, à comprendre le deuil et qu'est-ce qui est arrivé, et comment ça se fait que c'est arrivé, et qu'est-ce que je choisis à partir de maintenant, et comment est-ce que je le choisis maintenant pour moi et pour les enfants s'il y a lieu. Par la suite, là, on va pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre et l'intégrer à sa famille.
Vous parlez...
Mais ça prend vraiment une pause, pardon.
Absolument, absolument, ça prend une pause. Je suis tellement d'accord avec vous. Sinon, qu'il y a des risques de retomber dans le même pattern.
Eh bien, c'est exactement ça. Et après ça, on va revenir ensuite aux mêmes difficultés. Et de là, la fameuse phrase, les hommes sont tous pareils.
Ouais. Ça en est une généralisation.
Mais c'est une très grande généralisation, mais dans le fond, c'est pas l'autre qui est tout le temps pareil, c'est soi-même qui faisons les mêmes erreurs. Mais on s'en rend pas compte, c'est inconscient, là. On se lève pas un matin en se disant « Oh, je vais recommencer comme ça, ça va bien aller, là. »
Non, en effet. Et à travers tout ça, c'est qu'il y a des beaux-parents qui se greffent, il y a des grands-parents aussi qui se greffent. Et au moment d'une séparation, ça fait beaucoup de petits cœurs là, qui sont attachés, qui doivent dénouer les liens. Et c'est pas toujours évident de garder.
C'est pas toujours évident.
Bien, vous amenez un concept que je trouve vraiment intéressant, la grande tablée ou la table de vie.
En fait, c'est ma table de vie, la grande tablée, on l'appelle comme ça vous chante. En fait, c'est de comprendre que dans chacune des tablées, si on prend par exemple, un parent d'une famille nucléaire qui ont déjà leur famille, leur tradition, bon, il y a les grands-parents d'un côté paternel ou d'un côté A, du côté B, et ça se sépare. Mais la tablée qu'on continue à invoquer, l'autre qui va arriver va être aussi différente. Elle peut être aussi pas de la même hauteur, pas de la même grandeur, mais il y a des gens autour qui vont disparaître et il y a des gens autour qui vont rester malgré tous les malgré. Hein? Pour un enfant, le grand-parent paternel devient très important, même si les deux parents sont séparés. Il y a un lien qui doit être tant pour le grand-père ou le grand-parent que pour l'enfant. Le lien doit demeurer parce que c'est son grand-père. Quand il va s'en aller avec l'autre famille, c'est pas un troisième puis un quatrième grand-père. Il y en a déjà un grand-père. Il n'a pas besoin de deux.
Mais il reste
comme
qu'on s'attache.
Il y a déjà un père, pardon?
On s'attache quand on croise justement quelqu'un. On s'attache à ses enfants ou même comme grand-maman d'adoption. On s'attache. Oui. C'est difficile de faire la part des choses.
Voilà. C'est très, très difficile. Très difficile. C'est pour ça que c'est délicat de recomposer une famille. Il faut être certain de son coup, là. Parce que, parce que à quelque part, les parents ou les adultes, on va les appeler comme ça, les adultes, eux, c'est un choix qu'ils font. Hein. Je fais le choix de me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, pour raison X, qui est tout à fait légitime. Mais l'enfant, lui, il choisit pas ça. Puis si on recommence avec un autre conjoint, puis après ça, un conjoint, puis après ça, à un moment donné, l'enfant, ce qui arrive, il ne fait plus confiance à l'adulte. Et devient méfiant des personnes au niveau de l'attachement. Ça ne sert à rien de m'attacher à des adultes, ils s'en vont de toute façon.
Ben oui, c'est ça.
C'est ça qui est important comme parent, de faire les bons choix puis de ne pas se précipiter dans une nouvelle relation. Et de vraiment de prendre conscience que tu as un grand-papa, tu as une grand-maman du côté de maman et c'est la même chose du côté de papa. Là, je deviens très non-binaire, non-genrée, là, mais c'est pas ça. Je deviens très genrée, mais là, n'est pas le propos. C'est pour faire comprendre que pour l'enfant, c'est très difficile et que pour le conjoint, ou pour l'adulte, c'est, entre guillemets, plus facile parce qu'il décide de se défaire de la relation. Et ça, c'est quand ça va bien. Quand les deux adultes se séparent, ils sont incapables de se jaser entre eux. Imaginez comment est-ce que vit l'enfant.
Absolument. Et vous suggérez justement dans cette, si je reviens à la grande table de vie, qui aurait trois catégories. Là. On recompose notre table, mais avec trois catégories. Allié, spectateur, absent. Parlez-nous de ça.
OK. En fait, c'est que quand on fait notre table de vie, on met autour de la table les gens qui ont une bonne influence pour nous. Pas pour le voisin, pour nous. Donc, c'est des gens qu'on peut décider quand on se sépare. On dit, OK, c'est qui les personnes qui sont autour de moi qui ont une bonne influence? Donc, vous les laissez autour de votre table. Des gens pour qui, il n'y a pas une bonne influence, mais mettons que je ne peux pas couper le lien, par exemple, mon père. Mon père, je ne peux pas couper le lien, c'est mon père, les dit. Bon, alors lui, je vais le mettre en observateur. C'est-à-dire que il a le droit de me jaser, mais je ne fais fi que c'est les personnes qui sont autour de ma table, chez qui je vais pouvoir prendre conseil, chez qui je vais pouvoir appeler, dire qu'est-ce que tu en penses, parce que ces gens-là ont toujours eu de bons conseils pour moi. Et on peut aussi, en même temps, décider de prendre un grand coup de balai pour certaines personnes qui ont été de très mauvaises influences pour soi.
Des gens qui nous jugent, qui nous font sentir coupables.
qui nous jugent, qui nous font sentir coupables, mais aussi qui, à la limite de la méchanceté. Vous savez, il y a des fois dans des relations, on va garder ces relations-là parce qu'on ne sait pas pour quelle raison. C'est le temps là, de faire du ménage.
Donc, ils deviennent les absents de notre tablé.
Complètement les absents de votre tablé. Puis si vous les rencontrez à l'épicerie, vous pouvez les saluer de la tête, mais ça s'arrête là. Mm-hmm. Ils font plus. Vous décidez de couper la relation parce que vous êtes conscient que cette relation-là, elle est toxique pour vous. Les personnes, en tant qu'adultes, si vous avez des enfants que vous ne pouvez pas mettre de jeter du revers de la main, de couper la relation, c'est le parent de l'autre, de votre enfant. Mm-hmm. Vous ne pourrez pas, même si vous l'avez ici, pour vous en confesser.
Bien, je pense que ça, c'est ça. Puis quand on rechoisit une nouvelle personne, vous dites aussi de prendre le temps de fréquenter aussi les enfants avant de décider de faire maison commune, prendre vraiment bien le temps puis d'expliquer, de faire une genre de réunion familiale où on explique les nouvelles règles et d'impliquer les enfants dans cette réunion.
Tout à fait. Et c'est tellement important. Parce que vous savez, pour certaines personnes... pour certains enfants, de faire une nouvelle règle, pour vous, ça peut être complètement banal. Mais pour l'enfant, c'est tout ça. Contexte personnel, sans que ce soit dans un recontexte familial, moi, j'ai adopté 3 enfants, dont un qui est arrivé à l'âge de 5 ans chez moi, donc qui a partagé avec son frère d'adoption la même chambre. Et j'ai fait une réunion familiale en demandant à mes enfants, dans un langage qui leur était propre à l'époque, qu'est-ce que pour toi serait important pour qu'on puisse accueillir ton nouveau frère à la maison? Et pour lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était une douillette des Power Rangers à l'époque. Ça vous mène dans l'autre. Mais pour lui, ça, c'était primordial. Puis je veux que mon nouveau frère en ait une aussi. C'était le lien qu'il venait de créer. Bon, j'ai investi 2 douillettes.
c'est très joli, Marie. Nous allons aller en musique avec une pièce qui s'appelle Chanson douce de Laurie, qui parle du rôle des beaux-parents, justement quand la relation se termine. Mmh. Alors, on écoute ça, puis on creuse la question des beaux-parents et des grands-parents tout de suite après.
Avec plaisir.
Parfois vous maudire que j'ai adoré vous regarder grandir. Les liens du cœur parfois valent bien ceux du sang. Mes anges, les faibles dans ma voix sont pour vous les enfants. C'est une chanson douce que vous chantez votre belle maman. C'est une chanson douce que vous entendrez un peu moins souvent maintenant. Maintenant. Ça n'aura pas été tous les jours des vacances d'avoir pu partager un bout de votre enfance. Mais ça reste un de mes plus précieux souvenirs. Mes anges, s'il reste un baiser, laissez-moi vous l'offrir. C'est une chanson douce que vous chantez votre belle maman. C'est une chanson douce que vous entendrez. Chanson douce que vous chantez votre belle maman. C'est c'est une chanson douce que vous entendrez un peu moins souvent maintenant. Maintenant que vous entendrez.
C'était Chanson douce de Laurie. Et si vous avez déjà été un beau parent qui a croisé la route d'enfants que vous ne voyez plus, je suis convaincue que ça vous a touché.
Tellement, tellement, tellement. C'est une magnifique chanson de Laurie. Vraiment.
Oui, oui. Puis justement, je me demandais, vous m'avez fait une petite confidence, Marie, je vais vous en faire une. J'ai déjà eu une belle-mère qui m'a dit... je t'aime bien, je te trouve sympathique, mais je vais pas m'attacher à toi parce que, ni à tes enfants, parce que mon fils, ses relations, ça dure jamais plus que 3 ans.
Et bateau, c'est difficile, hein?
Ben, c'est parce que je me disais, ne serait-ce que si ça avait duré 3 ans, c'est quand même 3 ans importants dans une vie.
Oui.
Comment on fait pour jauger le degré d'attachement?
C'est terrible. Ça, c'est le côté qu'on ne peut pas jauger. C'est ça qui fait partie de la confiance à l'autre. Probablement que votre belle-mère, je ne sais pas si elle est rendue une ex-belle-mère.
Ben oui, elle avait raison.
Elle avait raison. En fait, c'est justement elle a fait ça pour se protéger. Parce qu'elle était tannée d'avoir mal à chaque fois. Parce que probablement que pour elle, s'attacher à vous et à votre progéniture, c'était quelque chose de très important. Et qu'à chaque fois, c'était une déchirure qui ne guérissait, c'était de plus en plus long à guérir.
Puis vous savez, à l'inverse, la grand-mère paternelle de mon fils, elle, je suis devenue amie avec elle au fil du temps et elle considère toujours que mon premier fils... Elle considère qu'elle est toujours la grand-mère, même s'il n'y avait pas de lien de sang comme tel. Et je trouve ça d'une ouverture d'esprit, mais une grande capacité d'être capable de recevoir ça.
Oui, en fait, ça dépend beaucoup des gens et de leur bagage. Vous savez, quand on parle de transmettre, de transmettre la tradition, votre émission au fil du temps, ça le dit tellement. Parce que ça parle de sa propre vie. Chaque fil d'une personne ramène à son temps et à son expérience et à ses malheurs et ses douleurs et ses joies et ses peines. Dépendamment du fil, s'il est écorché, s'il a été coupé, s'il a été renoué, s'il y a eu des nœuds, si c'est indéfaisable. Donc, chaque personne a son propre fil et c'est comment elle réagit par rapport à ça. Probablement que la grand-mère, du côté paternel, a eu un fil plutôt résilient ou plutôt agréable, tandis que d'autres personnes ont eu un fil plus difficile, dépendamment de la façon qu'ils ont été en mesure de s'attacher à l'autre et d'avoir la confiance en l'autre.
Parce que le parent qui décide de se remettre en ménage, disons-le comme ça, prend une décision. Tandis que le grand-parent, lui, il est mis devant ça, là. C'est pas lui qui a pris la décision.
Non. Tout à fait. C'est pour ça que c'est difficile, vous savez, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps quand on décide de couper les ponts, de voir est-ce que toujours penser en fonction de l'enfant là-dedans. Nous, en tant qu'adultes, on est capable on a la conscience et on a la compétence de se dire ben l'autre parent n'était pas adéquat. Mais est-ce que sa famille, lui, parce que l'enfant a eu un lien significatif avec la génération précédente ou une tante qui l'aimait particulièrement. Alors, pourquoi priver ce lien-là à l'enfant? Est-ce qu'on fait ça pour se venger? C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps-là pour réfléchir et se déposer quand on se sépare. Vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça dans l'espace de 3 mois, 6 mois. C'est le temps, il faut prendre le temps de se déposer puis comprendre ce qui s'est vraiment passé pour soi et aussi pour les enfants. Pour qu'on puisse continuer au fil du temps de leur permettre de leur permettre de construire ce fil-là pour que par la suite, puissent partager les traditions, puissent comprendre. Vous savez, à la fin du livre, et c'est vrai ce que j'ai écrit, tout est vrai dans le livre de toute façon, mais il y a une anecdote, mais c'est parce qu'il y a une anecdote, c'est arrivé juste avant que j'aille à l'impression. Et c'est un couple d'amis, donc leur fille s'était mariée pas longtemps avant l'apparition de mon livre, et pour une raison X, a décidé de se séparer du père des enfants. Mais quand elle a annoncé ça à son propre père, la jeune dame a dit, « Tu sais, papa, je n'ai pas peur de passer par là parce que ça a été agréable pour nous quand toi t'as passé par là. »
Donc, dans notre propre expérience de vie, on transmet aussi comment notre enfant va réussir à bien passer au travers. Donc, de le faire aussi pour sa future vie amoureuse.
Bien, tout à fait. Tout à fait. Parce que l'enfant n'apprend pas, vous savez, puis j'apprends rien, je n'apprendrai rien là-dedans, l'enfant n'apprendra pas dans la façon que l'on va dire les choses. C'est dans la façon qu'on va faire les choses.
Absolument.
Donc, si, en tant qu'adulte, on décide, parce qu'on reste dans la séparation familiale, on décide de prendre son temps, de faire les choses bien et de s'assurer que tout va être fait pour tout le monde, avec le moins de dommages collatéraux possible, qu'on permette aux enfants de voir leur père dans la, ou l'autre parent dans la mesure où il n'y a pas, ou en tout cas, bref, ça rentre dans les valeurs de chacun, ou ce que ça va quand même correctement. Ne pas descendre l'autre conjoint, c'est important parce que l'enfant, quand vous lui parlez, sachez qu'il est la moitié de l'autre parent.
Absolument. Toujours se rappeler ça. Marie, mon petit, votre livre regorge de bons conseils. Mmh. Je le suggère à toute personne qui vit une telle transition. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été au fil du temps. Je retiens, entre autres, les règles des 5C, la règle des 4R, mais j'invite nos auditeurs à découvrir ça dans votre livre. Merci, Marie.
Merci à vous, Mme Chantal. Passez une belle journée.
Au plaisir.
Merci, au revoir.
Dans la deuxième demi-heure, on réfléchit comment garder le lien avec ses enfants adultes sans devenir envahissant.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Si vous souhaitez entendre le récit d'une belle histoire de liens conservés malgré une séparation, je vous invite à écouter mon entrevue avec mon ex-belle-maman qui est devenue une amie. Et on peut réécouter cette émission et l'ensemble de nos émissions en tout temps sur canalem.vusezvoix.com ou encore sur Spotify, Apple Balado, Google Podcast. Et également, on a également reçu la prochaine invitée. On l'a reçue le 22 septembre 2020. Ce sera avec plaisir qu'on reçoit à nouveau l'éditrice du magazine Le Bel Âge, Aline Pinksteren. Avant de la recevoir, on va en musique avec Le Monde moderne de Calogero.
Entre Noël et jour de l'an, sur les quais des gares, des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents. Les histoires du soir ont changé, plus de princesses à libérer. J'ai de papa, j'ai de maman, mais je suis toujours un enfant. C'est le monde moderne, les gens sont les mêmes. Il y a des joies, des peines, il y a des cœurs qui s'aiment. La chanson c'est la même, il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne, et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, j'ai mon cœur qui s'aime, mais pour moi c'est idem. tu es parti quand même dans le monde moderne. Sur les plages bondées en été, les familles sont recomposées. Il y a la femme qu'on a aimée et celui qui nous l'a volée. On n'aurait pas imaginé pouvoir un jour lui pardonner, mais on compose avec son temps quand on voit la joie des enfants. Des gueules qui saignent, la chanson c'est la même. Il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, il y a mon cœur qui saigne. Mais pour moi c'est la même, je t'ai aimé.
C'était Le Monde Moderne de Calogero, un artiste que je ne connaissais pas, et je vous avoue que c'est l'un des grands plaisirs que de préparer cette émission pour vous. Notre équipe aime bien découvrir de nouveaux artistes et aussi d'explorer l'univers d'invités extraordinaires, comme celle qu'on reçoit en ce deuxième bloc d'Au fil du temps. Nous l'avions reçue en septembre 2020, c'est l'éditrice dynamique du Bel Âge, Aline Pinksteren. Rebonjour Aline.
Bonjour.
Il y a un article qui a vraiment piqué mon attention dans l'édition d'octobre 2021. Mm-hmm. C'est cet article-là sur rester proche de ses enfants sans être envahissant. Mais oui. Je vous avoue d'abord que votre éditorial, il m'est allé droit au cœur.
Oh, merci, c'est gentil. Je pense que c'est le vécu de beaucoup de gens. Hein. Je vois aussi sur notre site, on a eu beaucoup de réactions, je reçois des lettres, donc oui, je pense que...
Parlez-nous-en un peu, confiez-vous à nous.
Mais écoutez, je viens de vivre ce que je pense que beaucoup d'auditeurs ont vécu, c'est-à-dire le départ du nid du premier enfant. Je pense même que c'est peut-être plus difficile quand c'est quand ils sont tous partis dans le fond. donc voilà, c'est un moment, c'est ça, c'est une relation qui change. Et bizarrement, effectivement, ça s'est retrouvé. J'ai vécu ça en même temps. C'était pas prévu, mais en même temps que on avait cet article dans le même numéro qui m'a beaucoup aidée. Parce que c'est ça, c'est un... Nos enfants qui deviennent adultes, hein, c'est comme une adaptation, c'est spécial. On a ce rôle qu'on a joué pendant tellement longtemps, puis on peut plus jouer le même rôle parce qu'il n'est pas perçu de la même façon. C'est vraiment étrange. C'est comme si c'était notre enfant, mais c'est plus notre enfant. Et c'est ça que j'avais envie de dire à travers mon édito. C'était oui, c'est eux qui partent, mais c'est à nous finalement. C'est le petit oiseau qui prend son envol, mais c'est à nous finalement aussi de prendre notre envol parce qu'on a été tellement pendant longtemps dans ce rôle de parent. Et c'est ce rôle-là qui évolue parce que ça va être une relation d'adulte à adulte. Et c'est exactement le sens de l'article de notre journaliste Caroline Fortin. C'est comment on passe à cette relation-là.
Mais c'est très beau l'image que vous venez de dire, qu'à nous aussi de prendre un nouvel envol.
Oui.
Et en tout cas, je souligne la qualité de cet édito parce que je pense que c'est le travail d'une rédactrice en chef de créer du sens avec les articles. Et je lisais votre article de voir dans sa chambre certains objets qui témoignent de l'enfance, que l'enfant ne veut pas jeter. Parce qu'il y a encore une petite prise là, mais en même temps, d'autres objets qui, eux, démontrent vraiment que le parcours vers la vie adulte est commencé.
Oui, Tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a comme des petits restes d'enfance encore dans la maison. Oui, c'est ça. C'est spécial. Mais je pense qu'on est tellement à avoir vécu cette transition-là. Mmh. Puis c'est après, qu'est-ce qu'on fait de cette relation-là? Comment on vit? Moi, c'est ce que je disais aussi dans l'édito, mais qu'on dit aussi dans l'article, c'est qu'on a nos attentes par rapport à cette relation avec l'enfant adulte. Et puis peut-être que lui, il n'est pas au même point que nous. On parle de... Il y a une témoine, enfin une de nos lectrices qui témoigne qu'elle a cette immense chance d'avoir une très, très belle relation avec ses enfants adultes qui l'invitent dans leur party d'anniversaire, elle va manger avec leurs amis, etc. Moi, je trouve ça personnellement exceptionnel. Je ne sais pas encore, moi, comment on arrive à ça. voilà, parce que c'est ça, il y a quand même aussi... on vient chacun maintenant avec notre vécu. Ils n'ont pas vécu leur enfance de la même façon, ces années-là de la même façon. Et puis nous aussi, on est tellement aussi, enfin, je m'inclus dedans, mais il y a aussi toutes ces années qu'on a passées à les élever. Puis maintenant, on devient quoi? Est-ce qu'on est inutile? On sert encore à quoi? Il y a tout mais, ça aussi.
Exact. Puis l'exemple que vous donnez, celle de Marjolaine Langlois, 67 ans, mère de 3 garçons, aujourd'hui âgée de 41, 43, 45 ans. Moi, ce qui me parlait, c'est qu'elle a 67 ans. Donc, ses enfants sont des adultes, peut-être des parents aussi. Mm-hmm. Donc, il y a eu du temps qui passe là, entre la situation que vous et moi, on vit et celle de Marjolaine. Mm-hmm. Il y a eu des années pour tricoter un nouveau lien.
Oui, mais c'est aussi, à ce moment-là, le lien, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait par rapport aux petits-enfants, parce que ça, on a souvent, ça revient souvent chez nos lecteurs, ces questionnements-là, et on a déjà d'ailleurs abordé ce sujet-là dans le magazine. C'est nous, en tant que, enfin nous, là je m'inclus, mais je parle de nos amis aussi, mais en tant que grands-parents, on porte parfois des jugements, on a envie, on est très tenté de donner des conseils sur la manière d'élever des enfants, puisqu'on en a élevé, mais c'est là aussi qu'il faut réussir à se contrôler. Donc c'est toujours cette même problématique d'avoir une relation d'adulte à adulte et de mettre des limites à notre rôle de conseiller, parce que peut-être qu'on ne nous demande pas conseil dans le fond, et c'est très bien comme ça aussi. C'est dur de rester à cette limite-là quand on voit comment nos enfants élèvent leurs propres enfants. Donc voilà, c'est comment garder le lien, de rester tissé sans mettre de la pression. C'est vraiment un travail d'équilibriste, là.
Oui, puis vous citez une psychothérapeute dans l'article. En fait, votre journaliste, Caroline Fortin, cite Sylvie Galland, qui est psychothérapeute à la retraite, et elle est autrice du livre « La relation entre les adultes et leurs parents ». Faire évoluer le lien toute la vie. Et ça a été, en lisant ça, j'ai fait, c'est tellement évident de dire que l'un des prérequis pour accéder à une relation de proximité, c'est de renoncer à son rôle de parent.
Exactement. Et c'est vrai que moi, ça m'a parlé, parce que comme vous le dites, ça paraît évident, mais on a souvent besoin que ça soit mis par écrit. Ah, ben oui, effectivement. Oui, parce que c'est une personne adulte. Donc, à nous d'avoir une relation avec une personne adulte. Et c'est pas facile d'abandonner ça. Et j'aime bien aussi ce qui est mentionné, justement, effectivement, toujours de Sylvie Galland, d'arriver aussi à avoir ses propres intérêts. Ça rejoint un peu ce que je disais avant sur le fait que souvent, on s'est consacré finalement à élever nos enfants, et puis on se retrouve un petit peu vite. Parfois aussi, ça vient avec une fin de vie professionnelle ou une redéfinition de vie professionnelle. Puis comment nous, on est là-dedans, comment on se définit? Si on s'est défini que par rapport à nos enfants, ça va être compliqué la suite. Donc là aussi, c'est d'avoir nos intérêts, nos passions propres. C'est pas facile.
Ce que j'ai beaucoup aimé de l'exemple que vous citez, Madame Langlois, qui a 67 ans, c'est quand elle dit « Je m'en fais pas si mes enfants n'appellent pas chaque semaine ».
Oui, ça c'est dur. C'est ce que je disais dans mon édito, parce qu'on vient aussi avec un passé familial. Moi, j'appelle ma mère tous les jours.
Ah, ok.
Oui. Oui, mais oui, d'autant plus avec l'isolement, avec la pandémie, etc. Ouais. Ça a quand même fragilisé beaucoup de monde.
Tellement.
Donc oui, je me dis, un appel, c'est pour moi, voilà, ça c'est ma perception. Un appel, c'est pas grand-chose, ça prend pas longtemps, voilà, et ça fait plaisir à la personne. Mais ça, c'est ma perception. Mm-hmm. Mes enfants n'ont pas spécialement la même perception. Il faut que j'apprenne ça, puis que je le prenne, que je l'accepte, et c'est toute cette transition-là pour laquelle je suis très admirative de Marjolaine.
Absolument. Elle dit, je préfère qu'ils m'appellent quand ils ont envie, pas par obligation. Et j'aime bien qu'elle a rajouté, mais si je m'ennuie trop, je les appelle, c'est tout.
Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est voilà, c'est moi j'avais imposé entre guillemets des soupers chaque semaine, puis j'ai réalisé que dans le fond j'étais chaque fois frustrée parce que quand après j'ai mon fils qui m'appelle pour me dire oh, je suis pas libre, ça nous énerve. Et finalement maintenant je n'impose plus ça grâce à cet édito et cet article et mon fils maintenant vient chaque semaine. C'est bizarre.
Ah oui. C'est ce qu'on appelle faire œuvre utile avec le bel âge.
Mais ne pas mettre la pression, vous voyez, je pense que c'est ça. Oui.
Exact, et comme vous le disiez un peu plus tôt aussi, se réserver des « tu devrais » ou « moi à ta place ».
Oh, oui. Oui, tellement, tellement, parce que c'est ça, on est toujours, on est tenté de rester dans ce rôle de conseiller, de rester dans le, pas d'une certaine manière dans le jugement, mais plus dans l'observation bienveillante. On croit que c'est bienveillant, mais ça reste, ça peut être envahissant. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas envahir, de trouver son territoire et de trouver un terrain d'entente commun qui n'est pas évident.
Je parlais justement de cette situation-là avec un ami qui me ressortit la fameuse phrase « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils vous sont prêtés et tout ». Et sur le coup, je lui ai dit « Bien, on la connaît tous cette phrase-là » puis il m'a dit « Écris-la, mets-la au-dessus de ta table de nuit ». Et je l'ai fait en me disant « Pourquoi pas ?» Et il y a une paix qui s'est installée en moi. Et maintenant, je valorise plus la qualité de la relation que la quantité. Et moi, je me dis, pour garder leur lien, je leur envoie des photos souvenirs, des blagues, des choses que je trouve... et c'est ma manière de garder le lien sans sentir que je les envahis.
Je fais ça aussi. Par exemple, je connais leur centre d'intérêt, donc effectivement, je vais leur texter ou leur envoyer des choses sur les réseaux sociaux que j'ai vues qui pouvaient être des sujets de conversation entre nous, qui pouvaient les intéresser, et j'attends pas une réponse. Je dis, ben non, mais tu m'as pas répondu. Non, j'attends pas de réponse. Moi, je suis juste contente de partager, et puis ça vient quand ça vient. Et oui, je crois que c'est comme ça qu'on n'est pas aussi dans nous. Dans quelque chose de négatif, dans une déception, dans une attente, qui finalement serait susceptible de pourrir la relation ou de voilà. Donc oui, j'aime bien. Il y a aussi par rapport à ce que vous disiez de la phrase de votre ami. C'est on le sait, on nous dit toujours aussi que on n'élève pas des enfants pour soi-même. Oui, mais voilà. Oui, mais non. C'est ça, c'est pas évident parce que c'est quand même un peu. Ils font partie de notre vie depuis tellement longtemps. Puis voilà.
Bien, je pense que c'est une nuance extrêmement importante que vous apportez, c'est de dire je dépose l'information et je n'attends pas un retour sur cette information-là. Parce que c'est là que la frustration, la déception peut entrer si on espère un retour. Alors que ça peut tout à fait faire son chemin, puis à un moment donné, l'enfant peut nous en reparler des mois plus tard.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a quand même eu... Il a su qu'on avait pensé à lui à ce moment-là, même s'il n'a pas répondu. Et parfois aussi, quand je pense à des personnes que je connais, qui parfois, quand il y a des conflits avec les enfants qui ont créé de la distance, mais ces petits gestes peuvent... Je l'ai vécu près de moi. Ces petits gestes peuvent renouer un lien progressivement. Parce qu'il y a un moment où, après 6 mois, vous avez posté des petites choses comme ça, par-ci, par-là, l'enfant vous répond. Donc, je sais, j'ai une amie qui l'a vécu. Donc, c'est quelque chose, c'est pas envahissant, justement. Et voilà, et ça maintient un petit lien. Mais ça, c'est aussi si notre attitude à nous est positive. Et je pense qu'il y a une autre, il y a une autre lectrice qui témoigne, Isabelle, qui témoigne du fait qu'elle a pris de la distance par rapport à sa mère, parce que sa mère avait toujours une attitude négative. Oui. Et je crois qu'on doit, dans ce rapport-là, puisqu'il change, dans ce nouveau rapport parental-là, qui n'en est plus un, comme on l'a dit, il faut aussi, nous, se poser des questions sur notre attitude, sur notre manière d'être, en général, dans le fond.
Oui, parce que là, comme vous le dites, c'est pas une question de présence, c'est plus une question d'attitude et l'enfant, pour lui, de recevoir, par exemple, des plaintes ou, on parle souvent des tamalous, là, des gens qui ont mal partout. À un moment donné, ça peut devenir lourd aussi pour lui quand lui-même est pris dans toutes sortes d'enjeux, en plein dans son travail, à éduquer ses enfants. C'est pas nécessaire. T'sais, nous, on voudrait garder ce lien-là, mais pour lui, c'est pas très nourrissant.
C'est quelque chose qui se rajoute. C'est exactement ce que vous disiez tantôt sur la qualité et la quantité. Hein. Mm-hmm. Si on devient une quantité qui est pesante, qui alourdit, qui... Voilà, je prends les mots dans un autre sens de les mots que vous utilisiez tout à l'heure. C'est ça, si on devient pesant, avec toutes les activités, effectivement, d'être parfois des jeunes parents ou des parents d'adolescents soi-même, notre enfant est devenu parent d'ado. Je crois qu'il faut qu'on apporte une respiration dans sa vie et pas... Bon, bien sûr, ça peut pas toujours être le cas. On est malade, hein, on s'entend. Mais si chaque fois qu'on se parle, c'est pour du négatif, quelque chose qui alourdit, ça va pas bien se passer non plus, là.
Aline, il y a tout plein de bons articles dans cette édition du mois d'octobre. J'aurai l'occasion un peu plus tard dans l'émission de parler d'un autre de vos articles sur les retraités recherchés. Mais j'incite nos auditeurs à zioter l'édition du mois d'octobre là, qui est vraiment intéressante. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au plaisir.
On enchaîne en musique avec « Au bout du cœur » de Gilles Vigneault.
Ainsi que l'ont fait nos ancêtres, nos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Cœur qui fait tourner la terre, qui bat pour rencontrer les siens, c'est le musicien solitaire le plus ancien. Il cherche encore la mélodie qui mettrait les cœurs en accord, l'âme tout en harmonie avec le deviendront des ancêtres. Je vois déjà nos descendants savoir enfin naître et renaître aux mains du temps. Le chant est dans la poésie, ainsi que les fruits dans les fleurs et les vendanges de la vie au bout du cœur. Ainsi que l'ont fait vos ancêtres, vos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Au bout du cœur.
Au bout du cœur de Gilles Vigneault. J'ai tellement aimé cette phrase. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Et moi, je rajouterais, même si parfois on n'arrive pas à joindre nos enfants au bout du fil, nous sommes toujours au bout du cœur. J'ai envie de vous parler d'un autre article de la revue Le Bel Âge, édition octobre 2021. C'est un article signé par Simon Diotte, qui parle des retraités recherchés. Bon, on a eu l'occasion de parler de pénurie de main-d'œuvre et l'article donne plusieurs bons conseils pour ceux qui désirent retourner sur le marché du travail à temps partiel. Et d'abord, on se dit souvent, fiscalement, ça vaut pas toujours la peine. Et cette semaine, je suis tombée sur un article vraiment intéressant de La Presse qui est signé Francis Veil. Ça dit « Travailleurs d'expérience, pas payant de travailler, faux ». Alors, c'est sous la plume de Francis Veil. Il part d'une analyse détaillée qui a été réalisée par le professeur Luc Godbout et son équipe de l'Université Sherbrooke. Donc, si je reviens à notre article du Bel Âge, en plus de bons conseils, vous allez retrouver aussi des beaux témoignages de gens qui ont décidé de retourner sur le marché du travail, dont Gaétan, à 58 ans, qui a été 37 ans travailleur social et qui, après un mandat de 4 mois, dans l'équipe de gestion des Jeux du Québec, a décidé de revenir tranquillement à temps partiel. Et aujourd'hui, il travaille en pratique privée, de nouveau comme travailleur social, mais également il est pigiste pour le magazine Géo Plein Air. Il y a aussi l'histoire de Suzanne Aubry, 59 ans, qui a enseigné pendant des années dans les écoles secondaires, qui a suivi en fait sa passion pour la décoration. Elle est maintenant conseillère aux ventes dans un magasin d'accessoires, de salle de bain et de cuisine. Il y a entre autres Julien et René qui travaillent dans une pharmacie, l'un comme commis, l'autre comme livreur, et qui se disent « ben c'est intéressant, c'est des horaires qui nous conviennent, on rencontre des gens de tout âge, de toute nationalité ». Donc, c'est un article aussi vraiment intéressant qui nous parle aussi d'autres personnes qui ont décidé d'avancer leur projet de déménagement qu'ils voyaient pour plus tard. Et comme André, entre autres, moniteur de ski alpin qui travaille à la boutique de vélos de montagne. Alors voilà de très beaux profils, des témoignages inspirants. Et on poursuit en musique avec « L'éléphant » de Sandrine Saint-Laurent.
Sa tête qui tourne, tourne autour de toi. Les sentiments qui déboulent du bout de nos doigts. Et tu m'ouvres la porte sur tes insomnies. Songe trouve l'œil qui t'emporte au plus creux de la nuit. Et pourtant, je m'acharne à faire naître un sourire dans tes yeux qui s'échappent. Qui cherche un répit. T'es comme un éléphant dans un placard. Nos pas de géants ne nous mènent nulle part. Et mais en courant, ça nous dévore. Tu gagnes du temps qui dépuise nos corps. Du temps
quel joli grain de voix que cette Sandrine Saint-Laurent enlise pour les Francouvertes 2021. Et ça conclut notre 65e émission d'Au fil du temps. Merci à Marie Monpetit, dont le livre s'appelle « Réussir sa famille monoparentale et recomposée » aux éditions La Semaine, et à Aline Pinksteren, rédactrice du magazine Le Bel Âge. Bien sûr, un immense merci à notre dynamique équipe, Nicolas Wartman en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, je me paye un beau cadeau. Je reçois, et là, vous allez sûrement vous rappeler, Mario Duquette du Tac au Tac. Oui, c'est Michel Forget qui sera avec nous pour nous parler de sa biographie « Délinquant un jour, artiste toujours ». Et notre collaboratrice Valérie Harvey nous parle de la sagesse japonaise. Sur ce, je vous souhaite une semaine à la fois sage et un peu folle. Merci beaucoup, nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.